Laudetur Jesus Christus.
Un accord a finalement été conclu sur le Brexit, annonce faite dans la matinée par le président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker. Le Premier ministre britannique, Boris Johnson, le qualifie d'excellent. Les unionistes nord-irlandais y sont eux opposés. Éclairage juste après les titres. À la une également, la visite aujourd'hui à Ankara de Mike Pence, le vice-président américain, et de Mike Pompeo, le chef de la diplomatie américaine. Un déplacement pour convaincre le président turc de mettre fin à son offensive dans le nord de la Syrie. Le Liban, ravagé par une centaine d'incendies, des forêts ont été réduites en cendres, des habitations dévorées par les flammes. De nombreuses voix s'élèvent, pointant du doigt la responsabilité des autorités. Vous entendrez le père Kerala, professeur à l'université Saint-Joseph de Beyrouth. Et puis nous reviendrons sur les travaux du synode sur l'Amazonie, qui se poursuivent au Vatican, et sur la question des viri probati et de leur ordination. Témoignage du président de la conférence des provinces de l'Amérique latine à la fin de ce journal.
Bonjour. Le journal Hélène Destombes.
Bonjour, Londres et Bruxelles sont finalement parvenus à un accord sur le Brexit ce matin, à 2 semaines de la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne, prévue le 31 octobre. Le négociateur européen Michel Barnier vient de donner une conférence de presse à Bruxelles pour annoncer cet accord de sortie. Il doit maintenant être présenté aux 28 chefs d'État et de gouvernement de l'Union européenne lors de leur sommet qui s'ouvre cet après-midi et affronter la Chambre des communes, alors que les unionistes nord-irlandais y sont opposés. À Bruxelles, Pierre Benazé.
Pour l'essentiel, l'accord entre les négociateurs reprend les points déjà négociés pour le premier accord avec le gouvernement de Theresa May, par exemple pour les garanties des droits des citoyens ou pour le règlement des engagements financiers pris par le Royaume-Uni dans le cadre du budget actuel de l'UE. Mais les deux chapitres les plus importants sont ceux qui concernent l'Irlande et la future relation euro-britannique. Pour cette dernière, les deux parties se sont engagées à maintenir une situation sans concurrence déloyale, avec des règles identiques pour les droits sociaux, l'environnement, les aides d'État et la fiscalité. Surtout, les négociateurs ont instauré un nouveau filet de sécurité pour l'Irlande qui instaure une frontière virtuelle entre la Grande-Bretagne et l'Irlande du Nord, coupant ainsi le Royaume-Uni en deux. Il y aura du coup des contrôles douaniers à l'arrivée de toutes les marchandises dans l'île. Les douaniers britanniques seront chargés d'appliquer le règlement de l'Union douanière européenne pour les marchandises susceptibles d'aller en Irlande du Nord. Et la TVA perçue en Irlande du Nord sera en revanche reversée à l'Union européenne. Cette concession britannique répond à la concession des Européens qui acceptent que l'Assemblée nord-irlandaise vote pour maintenir cet accord dans 4 ans. Pierre Benazet, Bruxelles, RFI pour Radio Vatican.
Et le chef du parti travailliste Jeremy Corbyn a appelé les députés britanniques à rejeter cet accord. Il ne rassemblera pas le pays, a-t-il affirmé, soulignant que la meilleure façon de résoudre le Brexit est de donner à la population le dernier mot lors d'un vote populaire. Et puis à noter enfin que la livre sterling a gagné 1% face au dollar après l'annonce de cet accord. La grogne ne faiblit pas en Catalogne. Après une nouvelle nuit de violence, les indépendantistes catalans poursuivent ce jeudi leur mobilisation contre la condamnation de leurs dirigeants par la justice espagnole. Ce matin, des étudiants étaient en grève et des routes de nouveau coupées en raison des marches de milliers d'indépendantistes qui entendent paralyser la région. Le président indépendantiste catalan, Quim Torra, est sorti de son silence pour condamner les violences. Il a, dans le même temps, promis de parvenir à l'indépendance d'ici 2 ans. Alors que la Turquie poursuit ses opérations dans le nord de la Syrie, dans les régions contrôlées par les forces kurdes, 2 émissaires de Donald Trump sont aujourd'hui à Ankara, le vice-président américain Mike Pence et le chef de la diplomatie Mike Pompeo. Ils doivent être reçus d'ici une 30 minutes par le président turc. Leur objectif, convaincre Recep Tayyip Erdogan de décréter un cessez-le-feu en Syrie, une option rejetée d'emblée par Ankara au risque de créer une grave crise avec Washington. Les précisions d'Anand Lower.
Donald Trump, à l'évidence, ne désespère pas de faire changer d'avis son homologue turc lors de ses entretiens en face à face. Car Recep Tayyip Erdogan, comme Donald Trump d'ailleurs, est un leader qui attache beaucoup d'importance au contact personnel, à la négociation directe. Et le dirigeant américain espère peut-être que ce déplacement, ce geste, fera un tant soit peu plier le président turc. On peut aussi y voir une rencontre de la dernière chance avant que la Maison-Blanche ne décrète d'autres sanctions. Donald Trump a menacé de dévaster l'économie turque. Ses émissaires viennent sans doute donner à Tayyip Erdogan un avant-goût de ce qu'il attend si s'il s'obstine dans son offensive. Mais les échanges risquent d'être d'autant plus tendus que la presse américaine a dévoilé une lettre fort peu diplomatique, envoyée le 9 octobre par Donald Trump à Tayyip Erdogan, dans laquelle il lui demande de ne pas jouer au dur et de ne pas faire l'idiot. Les relations sont tellement tendues que le président turc, qui avait annoncé dans un premier temps qu'il se rendrait à Washington le 13 novembre, à l'invitation de Donald Trump, sème désormais le doute. Il dit attendre sa rencontre avec la délégation américaine pour prendre sa décision. À Istanbul, Anne Loire pour Radio Vatican.
Et les autorités kurdes en Syrie ont accusé ce matin la Turquie d'agression contre Ras Al Ain menée avec des armes non conventionnelles. En 8 jours, l'offensive turque a jeté sur les routes quelque 300 000 personnes selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Cette offensive turque contre la milice kurde des unités de protection du peuple dans le nord de la Syrie fait par ailleurs craindre la fuite de djihadistes étrangers détenus par les Kurdes en Syrie. Une question extrêmement délicate et inquiétante, notamment pour la France. Le chef de la diplomatie française, Jean-Yves Le Drian, est aujourd'hui à Bagdad pour discuter avec son homologue irakien et le premier ministre Adel Abdel Mahdi de l'éventuel transfert et jugement en Irak de ses combattants, parmi eux 60 Français détenus dans le nord-est de la Syrie. Le Liban sous les cendres. Ces derniers jours, une partie du pays du Cèdre a été ravagée par des centaines d'incendies, forêts, habitations, voitures. Les flammes n'ont rien épargné. La région du Chouf, boisée et montagneuse, a été particulièrement touchée. Après des heures de lutte acharnée, grâce à l'aide matérielle étrangère, la plupart des feux sont aujourd'hui maîtrisés. Mais la polémique enfle sur l'origine de ces incendies et sur la responsabilité des autorités. Écoutez le père Gabriel Kerala, professeur à l'université Saint-Joseph de Beyrouth.
Plein de forêts qui ont été incendiées. Déjà au Liban, il y a une bétonisation du pays qui s'accélère depuis très longtemps et donc une déforestation du pays et ces incendies n'ont fait qu'accélérer ce problème. Justement, certaines personnes pensent qu'une partie a été provoquée par des promoteurs immobiliers pour pouvoir construire.
Alors, est-ce que déjà l'État a trouvé des moyens pour essayer d'atténuer les conséquences écologiques désastreuses ?
Pour l'instant, rien n'est dit. Et puis le problème, c'est que quand bien même l'État s'engage, la question de savoir, d'un, est-ce qu'il a les moyens ? Parce que l'État était, comme vous savez, au Liban, il est presque en banqueroute. L'État, il est en faillite totale. Donc, quand bien même l'État s'engagerait, est-ce qu'il aura les moyens de ses engagements ? Et parce que les caisses sont vides actuellement, on parle de la parité libanaise dollar qui risque de s'effondrer, c'est un risque. Hein. Donc, quelles mesures va prendre l'État et quelles mesures va prendre pour avoir les moyens, pour arriver à ces moyens ? Ça, c'est une grande question, c'est un point d'interrogation. Pour ma part, je suis très sceptique.
Des propos recueillis par Manuela Affigi. Retour à présent sur les travaux du synode sur l'Amazonie. C'est le thème qui fait le plus parler de lui en dehors de l'Assemblée. C'est aussi la question la plus controversée, celle des viri probati, ces hommes mariés d'âge mûr dont la probité, la foi, la vie tout entière leur permettrait, aux yeux de certains, d'être ordonnés pour faire face au manque de prêtres dans certaines régions de l'Amazonie. Mais ce n'est pas aussi simple, estime le père Roberto Ramillo, président de la Conférence des provinciaux de l'Amérique latine. On l'écoute.
Cette affaire de viri probati, ce n'est pas la solution des problèmes de l'Église. Parce que l'Église doit penser à la formation des prêtres, doit penser à la formation des laïcs, doit reconsidérer la participation des femmes et la multiministérialité des laïcs, doit travailler à être une meilleure collaboratrice avec les autres églises. Il a un tas de défis à côté de celui de viri probati. Le pape ne s'arrête pas de dire que nous sommes une église très cléricale. Le cléricalisme est comme un cancer. L'église comme telle, elle pense que l'église sont des prêtres et que les prêtres vont solutionner tous les problèmes de l'église. C'est pas comme ça. Hein. Donc, il faut revitaliser et multiplier à la mesure du don de Dieu par l'esprit, avec le discernement de l'église et des évêques, la ministérialité de l'église. Il faut chercher la nouveauté que Dieu veut nous communiquer. On doit ouvrir la base de la participation laïcale de façon à que chaque personne a une place, a une chaise dans l'Église.
Le père Roberto Ramillo, président de la Conférence des provinciaux de l'Amérique latine, interrogé par Xavier Sartre, un entretien comme de nombreux éclairages et analyses à retrouver à l'adresse vaticannews.va. C'est ainsi que s'achève cette édition. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve à 18h. Je vous souhaite une très belle après-midi. À plus tard. Au revoir.